Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, pour la dernière émission de la saison, et oui, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, nous allons tous partir en vacances, qui à la montagne, qui à la campagne, qui à la mer, bien évidemment, sans oublier les gestes barrières, soyez quand même prudents, parce que le virus, malgré tout, circule, et il ne faut pas gâcher les efforts que nous avons tous faits. Alors, disais-je, pour cette dernière émission de la saison, eh bien, je vous propose un thriller que vous allez pouvoir emmener en vacances. Alors, si vous ne voulez pas faire de cauchemar, alors prenez quelque chose d'un peu plus avec des petites fleurs bleues et des petits bisounours. Mais enfin, vous le connaissez, hein, cet auteur, il nous a déjà trimballé dans une histoire assez enlevée, passionnante et assez incroyable. Là, il nous emmène quelque part aux États-Unis, dans une forêt emplie de séquoias. Vous allez voir, c'est palpitant, c'est intéressant. J'ai beaucoup de plaisir à le revoir parce qu'il est toujours plein de verve, plein d'allant. Il nous raconte toujours plein d'histoires et c'est un auteur et un personnage et un homme fort agréable. Et je suis sûre que l'emmener avec vous dans vos bagages, ce sera un été passionnant. Bonjour Olivier Ball.
Bonjour Claudine, je suis ravie d'être avec vous.
Merci, je suis ravie de vous retrouver pour votre dernier roman, La forêt des disparus aux éditions Ixo. Nous nous étions rencontrés pour votre premier roman, L'affaire Clara Miller.
Oui,
et là, vous nous emmenez dans une forêt à l'Oregon, une forêt assez terrifiante, remplie de séquoias. On va y retrouver un personnage que l'on avait déjà rencontré, Paul Green. Et puis, alors, c'est toujours difficile après les thrillers, on est obligé de tourner autour du pot, donc on peut parler des personnages, mais pas de l'intrigue, pas du pourquoi, du comment. On va tenter d'aborder le fond et la forme tout en restant prudent pour laisser le soin aux auditrices et aux auditeurs de ces deux ailes de trembler sur la plage, par exemple. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce décor de forêt de séquoia dans l'Oregon? C'est vrai, ça nous fait voyager, mais expliquez-nous le choix.
Alors, en fait, moi, au départ, j'avais une vraie envie. C'était de raconter un peu le quotidien d'une communauté enchâssée entre un océan comme ça déchaîné et une grande forêt. Et je pensais évidemment à cette forêt de séquoia.
Ouais.
Donc, en fait, j'ai simplement remonté la piste de la côte ouest des États-Unis parce que je savais que ça allait être aussi la suite de l'affaire Clara Miller qui se passerait donc aux États-Unis.
Ouais.
J'ai remonté la piste comme ça et j'ai cru d'abord trouver le lieu parfait dans une ville qui existe, qui s'appelle Crescent City.
Ouais.
Et puis finalement, en creusant, je me suis dit que ce serait bien plus intéressant de créer ma propre ville, de créer une ville fictive. Et c'est ainsi qu'est née Redwood, la ville qui est au cœur de cette histoire.
Ouais.
Parce qu'en fait, moi, l'envie que j'avais, c'était en effet à la fois raconter cette communauté comme ça, un peu trop étriquée, un peu trop... qui se renferme un peu trop sur elle-même, et à travers cette histoire aussi, puisque Redwood, on va le découvrir à travers le roman, a un sinistre record. Cette petite ville est celle
de disparus.
Qui compte le plus grand nombre de disparus chaque année.
Alors, nous allons retrouver Paul Green, ce journaliste un petit peu qui a été un grand journaliste, hein, qui a fait d'énormes, de grosses enquêtes. On va le retrouver. Bon, il est isolé, il veut voir personne. Et puis, il va frapper à sa porte une jeune fille qui s'appelle Charlie. Qui va lui raconter un tas de choses, qui est traumatisée, donc on va pas trop dire non plus. Il y a aussi un autre personnage féminin qui est très fort aussi dans l'histoire, c'est Lorraine. Hein, voilà, deux personnages féminins qui vont tourner autour de lui. Vous aviez envie de retrouver Paul Green, vous avez envie aussi qu'on le retrouve. C'est un personnage fort et récurrent.
Alors en fait, c'est vraiment une histoire assez surprenante et intéressante, c'est que moi, à la base, je ne pensais pas faire revenir Paul aussi vite. Et en tout cas, je ne pensais pas le faire revenir tout de suite. Et c'est vraiment d'abord l'engouement des lectrices et des lecteurs autour de Paul dans l'affaire Clara Miller. Je sentais vraiment, en discutant avec les lectrices et les lecteurs, une vraie empathie pour ce personnage. Et plus largement, ça a été aussi le retour et les échanges avec mon éditeur Ixo. De manière très diplomate, mes éditeurs m'ont dit des petites phrases comme... ce serait quand même bien de reprendre des nouvelles de Paul. On l'aime bien, Paul.
Ouais.
Ce genre de choses qui, en fait, finalement, m'ont mis un peu la puce à l'oreille.
Piqûre de rappel.
Petite piqûre de rappel. Et moi, ça m'a fait cogiter.
Ouais.
Et ça a suffi pour lancer la machine parce que je me suis dit, vous voyez, quand on écrit des bouquins, et c'est vrai qu'il y a certains personnages qui nous marquent plus que d'autres, qui nous suivent plus que d'autres, qui nous poursuivent, on va dire.
Ouais.
Et moi, c'est vrai que Paul, c'est un personnage auquel je repensais souvent. avec beaucoup d'affection. Un peu comme un vieux copain qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Après avoir fini Clara Miller, je me disais, alors Paul, qu'est-ce qu'il a bien pu devenir? Où est-ce qu'il est en ce moment? À quoi il pense? Ce genre de choses. Et ben finalement, en m'y remettant, je l'ai retrouvé. Et ce qui était assez génial, et c'est pas du tout pour faire l'article et vendre mon bouquin, c'est que c'est vraiment, ça a été des vraies retrouvailles. C'est-à-dire que j'ai eu un plaisir immédiat à retrouver la plume de Paul, ses mots, la manière qu'il a de penser, de s'exprimer. Et j'ai adoré le retrouver. Donc c'est vrai que du coup, je suis content qu'on m'ait un peu mis le pied à l'étrier pour retrouver Paul.
Alors vous avez une spécificité que moi j'apprécie particulièrement. J'en ai parlé il y a quelques jours avec quelqu'un qui a également lu votre livre. C'est ce qu'on on appelle une littération chorale, c'est-à-dire vous mêlez plusieurs façons de raconter, de parler, le jeu, etc. Moi j'adore parce que ça nous met vraiment dans le monde. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'un dialogue. On nous parle, on se parle. Ça s'impose à vous, ce genre de littérature, d'écriture? Comment ça se passe dans votre esprit?
Alors, c'est vrai que depuis mon premier livre, Les Limbes, j'ai pris sans m'en rendre compte cette option, c'est-à-dire de raconter mes livres à la fois à la première personne et très rapidement, la plupart de mes bouquins, en effet, ont ce côté récit choral, c'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, on change de personnage et on découvre l'histoire à travers plusieurs narrations. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est qu'en effet, en tant que narrateur, je m'efface au maximum. J'essaie de créer le moins de distance possible entre le lecteur et les personnages. C'est-à-dire que vraiment, ainsi, comme vous l'avez très bien sous-entendu, il y a un côté quasiment très immédiat, très direct, entre le personnage et les lecteurs. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que vous êtes aux premières loges, vous vivez avec eux, vous allez découvrir l'aventure avec eux, mais aussi vous retrouver dans leur peau, dans leur tête, réfléchir et penser un peu à leur manière. Et ce qui m'intéresse aussi plus largement, c'est en racontant l'histoire comme ça, sous plusieurs regards, on découvre qu'il n'y a jamais une vérité, mais que chacun peut avoir sa vérité. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse sur la subjectivité aussi plus largement. Et au-delà de ça, bien entendu, c'est aussi une question de rythme qui m'intéresse.
Bien sûr.
On écrit quand même des thrillers. Et le rythme est très important. Et c'est vrai qu'en ayant ce récit choral, je trouve que ça dynamise le rythme. On est tout le temps comme ça surpris, on est tout le temps emporté dans la lecture.
Oui, mais nous-mêmes lecteurs sommes happés par ce rythme et puis happés par les personnages. Comme vous dites, chacun a sa vérité, ça n'est pas forcément la vérité, c'est la vérité de chacun, mais ça nous permet, nous, de garder une certaine objectivité, c'est-à-dire de se positionner par rapport à un avis. Ah tiens, lui il a dit ça, là il a vécu ça comme ça, oui mais alors moi finalement comment je vais me positionner et que vais-je penser par rapport à tout ça? Et ça, je trouve ça super intelligent parce que on est happé, on est vraiment dans l'histoire. En fait, c'est un dialogue avec tous les personnages. C'est comme si on vivait les choses. Tiens, un jour, je vais avec Paul et puis après, je vais aller avec Charlie. Ah tiens, en fait, Lorraine, qu'est-ce que... Voilà, on est vraiment happé par ça. Et quand le livre se ferme, quand on arrête, eh ben, ça manque parce que c'était devenu une habitude.
Écoutez, je suis très touchée, merci.
Avec plaisir. Alors, il y a aussi une chose très intéressante dans ce livre, dans l'ambiance, dans l'Oregon, l'Ouest américain, c'est qu'aussi il y a des secrets qui vont dater du temps des pionniers.
Oui, tout à fait.
Et moi, c'est un moment que j'adore parce que je suis toujours très très intéressée, je sais que les auditrices, auditeurs aussi, par les pionniers de toutes sortes, que ce soit aux États-Unis ou les différents pionniers qui ont façonné le monde tel qu'il est, en tout cas en inventant, en créant des pays. Et j'ai senti chez vous quelque chose de vraiment profond à ce niveau-là, d'un intérêt très particulier à ce sujet.
Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'était de raconter en effet les racines de ce village, Redwood, qui s'est construit comme ça en s'isolant du monde et du reste de la communauté. C'est quasiment un pays dans le pays, c'est-à-dire c'était montré aussi qu'aujourd'hui, il est encore possible dans la plus grande, soi-disant, civilisation occidentale, d'avoir comme ça des poches de petits villages comme ça qui vivent un peu entre eux. Et donc j'avais envie de raconter ce village qui s'est construit aussi malgré l'adversité, puisque comme je disais en introduction, vraiment les éléments sont déchaînés autour de Redwood.
Oui.
Historiquement, ça a été une région qu'on appelait le bout du monde, puisque c'est vraiment l'une des dernières régions qui a été conquise par les pionniers, parce qu'en effet, il y avait la Sierra Nevada qui bloquait l'accès quand on venait de l'Est, donc il fallait passer par San Francisco, prendre des bateaux. Donc ça a été à la fois un des derniers replis aussi des autochtones, des Indiens d'Amérique, puisque c'était l'une des dernières terres qui n'a pas été prise d'assaut, dirons-nous, par les pionniers.
Et ravagée,
alors complètement. Et en effet, ce qui m'intéresse aussi à travers cette histoire, l'histoire des pionniers, mais qui globalement comme souvent, l'histoire de l'Amérique synthétise aussi beaucoup l'histoire des civilisations occidentales, parce que bon, certes, il y a eu des pionniers aux États-Unis, nous on a eu notre lot de choses compliquées avec le colonialisme et ce genre de choses. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est toute cette réflexion autour de la destinée manifeste. Donc c'était vraiment cette idéologie qui a été développée par les colons et les pionniers et les partis politiques à l'époque, mm-hmm. pour faire croire aux pionniers qu'ils avaient une sorte de mission divine de conquérir, d'aller toujours vers l'Ouest, de prendre les terres, de construire, de bâtir. Et en effet, tout ça, bien entendu, au détriment des peuples autochtones qui vivaient là depuis des centaines d'années, voire bien plus, oui. et qui ont été complètement éradiqués, puis ensuite parqués dans des réserves. Oui. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la manière dont l'histoire se réécrit sans cesse, la manière dont on a reconstruit l'histoire autour des pionniers, en les dressant comme des figures un peu à la John Wayne, des figures vraiment voilà, de conquête, et même encore aujourd'hui, oui. combien l'Amérique garde cet état d'esprit de conquête, l'ultralibéralisme américain est finalement l'héritier de cette fameuse destinée manifeste oui. qui s'est faite, on l'oublie un peu, au coup d'un génocide, celui des Indiens. Quoi.
Oui. C'était un peu le même cas quand vous regardez l'histoire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Ah mais complètement, complètement.
Mmh. Mmh. Oui. Complètement. Moi ça me passionne aussi. Alors, il y a un autre personnage que vous appelez, en tout cas que les protagonistes de cette histoire, de ce thriller, appellent l'homme rouge. Alors, on va pas en dire trop non plus, c'est quand même un homme particulier. Et au fur et à mesure aussi de la lecture, on s'aperçoit que le doute, aussi dans l'esprit des autochtones, va s'insinuer. Et si chacun était coupable, et si chacun avait une responsabilité dans ses disparitions, dans ce qui se passe. Et là, c'est assez futé parce que du coup, on regarde le voisin en chien de faïence.
Oui, c'est ça, en fait. Moi, le cœur du roman, c'est vraiment cette réflexion sur la société de la peur.
Oui.
Le fait qu'on vit tous, on va le voir dans le roman à travers le personnage de Paul Green, donc, qui est cet ancien journaliste qui est un peu déçu de sa vie et qui va s'enfermer.
Oui, il se retire.
Dans cette nature sauvage, se retirer du monde et des vivants et devenir une sorte d'ermite.
Oui.
Là-bas, à Redwood, il a beau vivre là-bas depuis 5 ans, on continue à l'appeler l'étranger.
Et oui.
Il sera toujours l'étranger. C'est un peu différent.
Mmh.
Et ce qui m'intéressait, c'est à travers son personnage et le regard qu'ont les autres sur lui, Paul, c'est quelqu'un voilà, qui va considérer qu'à chaque fois qu'il a essayé de tendre la main, qu'il a essayé d'aider les gens, de changer quelque chose, ça a fini, selon lui, de manière pire que ce qui aurait pu advenir. Donc lui, il s'est convaincu que finalement, le mieux peut-être, c'est de ne rien faire, de fermer les yeux et de faire l'autruche. Et en fait, le roman va raconter son retour parmi les vivants et combien parfois il faut aussi accepter de prendre prendre la main qu'on nous tend, à accepter de prendre des risques, d'aller vers l'autre, même si c'est dangereux, même si on doit se remettre en question, parce qu'on ne peut pas vivre étouffé en ayant sans cesse peur de tout et de tout le monde. Parce qu'on voit justement, comme vous le disiez très justement, dans Redwood, au bout d'un moment, à force d'être trop enfermés sur eux-mêmes, à force d'être complètement obsédés par cette peur comme ça de l'autre, ils vont devenir eux-mêmes effrayés de tout, effrayés de leur voisin.
Suspicieux de tout. Ouais. C'est ça.
Et en creux, moi, ce que je voulais raconter, c'est un peu peut-être le monde dans lequel on vit, sans jugement, parce que je m'inclus aussi dans cette peur,
bien sûr.
Parce que j'en suis l'héritier et j'en souffre comme tout le monde. En évitant d'être donneur de leçons, montrer qu'on l'a vu cette année avec cette histoire d'épidémie, qu'on est dans une société très anxiogène où tout est fait pour nous terroriser, nous convaincre qu'il ne faut pas sortir de chez nous, que même chez nous il faut avoir peur, et je ne sais pas si c'est vivable. Je dis pas spécialement que j'ai des solutions, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez inquiétant.
Alors justement par rapport à ça, par rapport aussi aux déceptions de Paul, aux questions qu'il se posait, quand Charlie va frapper à sa porte, toute la question va être, et on ne dira rien, va-t-il l'aider, va-t-il faire quelque chose pour elle, va-t-il s'embringuer là-dedans, ça va être une question assez récurrente, et voilà, on laissera le soin à vos lecteurs et à vos fans de découvrir la chose. Ce qui est aussi assez intéressant aussi dans ce roman, c'est, vous le disiez, les différentes questions, il y a des questions existentielles sur la vie, sur la peur, sur le regard de l'autre, mais il y a aussi sur le vivre en société.
Ouais,
et c'est un sujet complètement actuel et vous l'avez bien inclus dans le livre aussi, par rapport à cette petite ville, le vivre en société, le vivre ensemble, c'est un réel problème aujourd'hui.
Oui, tout à fait, c'est exactement comme vous le dites, c'est comment on peut construire des liens ensemble, comment on peut accepter aussi de faire des sacrifices. Mmh. Et comme vous, comme Paul l'explique à la fin du roman, sans trop oui. cacher la surprise ou quoi au caisse, mmh. c'est vrai que on ne peut pas toujours vivre en fermant les volets quand on entend les voisins s'engueuler. On ne peut pas toujours vivre en changeant de chaîne quand on a des images d'un conflit à l'autre bout du monde. On ne oui. peut pas toujours vivre en changeant de trottoir quand on voit un clochard dans la rue. Il y a un moment où il faut réagir, et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la pandémie, hein, quand on voit les réfugiés qui débarquent sur nos côtes tous les jours, et puis nous on détourne le regard en disant que tout va bien, les changements climatiques, toutes ces problématiques qui nous entourent, et nous on continue à garder nos œillères et à dire jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, comme dans la citation du film La Haine.
De Kassovitz.
De Kassovitz, et je pense que plus que jamais, il faut aussi essayer de se dire tous à notre petite échelle qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux vivre ensemble, tout à fait.
Alors, on m'a rapporté, j'ai lu, j'en ai parlé également, que ce livre avait été écrit durant le premier confinement.
Ouais,
c'est ça. Je pense pas que ça doit être un hasard, mais alors justement, c'est ça, cette histoire où les gens sont un peu enfermés dans leur petit village, dans leur petite vie, dans leurs petits soucis, dans leurs petites questions, dans la peur de l'autre. Est-ce que au travers de ça, alors je vais pas faire de la psychologie à trois balles de comptoir, mais est-ce que cette forme d'enfermement, ça a été une façon aussi de libérer un peu des angoisses où on a été enfermé, même si on avait des jardins ou autre, il y avait quand même des restrictions, c'était plus la liberté, c'était plus l'insouciance. Est-ce que ça a conduit chez vous, est-ce que ça vous a aidé pour construire ce village de Redwood?
Oui, je pense, clairement. En effet, moi, inconsciemment, peut-être, parce que ce qui était intéressant, c'est que, en effet, j'ai écrit vraiment durant toute cette phase de pandémie que nous avons tous traversée.
Oui.
Ce qui est étonnant, c'est que moi, je pense que j'ai été puisé une forme d'évasion aussi dans ce roman. Mm-hmm. Et malgré le côté assez... effrayant que peut avoir la forêt dans mon livre.
Oui.
Je pense qu'il y a aussi une part d'émerveillement et de dépaysement. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de transmettre.
Les séquoias, ça fait rêver.
Voilà. C'est ça. Ce que je voulais aussi transmettre, c'est qu'à l'heure où il est vraiment très difficile de voyager en ce moment, j'avais envie d'offrir un voyage comme ça vers l'Oregon, ses mystères, vers cette forêt un peu comme ça, mystique, étrange et surprenante. Et je me dis qu'un livre, c'est toujours un voyage immobile, une fenêtre ouverte vers un ailleurs, et plus que jamais, on en a besoin. Donc, il y avait déjà ça, cette envie, même de manière très égoïste, je dois vous l'avouer, c'était aussi de me dire, comme ça, pendant quelques mois, je vais aller me balader en Oregon, virtuellement, dirons-nous, en tout cas dans ma tête, je vais pouvoir voyager en Oregon, à une époque où on était vraiment très enfermés chez nous. Mmh. Et puis, plus largement, c'était, comme je vous le disais, aborder ces sujets, ces angoisses qu'on avait tous aussi. Mais pas de manière frontale. J'avais pas envie de raconter un bouquin qui se passait en 2020-2021 avec tout le monde qui porte des masques, avoir l'écho de la pandémie. Je pense que tout le monde en a bien entendu assez parler.
Mmh.
Et du coup, j'avais envie de raconter ça de manière un peu différente, un peu décalée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais par contre, ce qui est très intéressant et surprenant, c'est qu'en discutant avec d'autres auteurs de chez Ixo, notamment Bernard Minier...
J'allais vous le dire avec La Chasse.
Il y a une étonnante similitude. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes romans qu'on a écrits, fort heureusement.
Non.
Mais il y a ce rapport à la nature, puisque là, il y a pas mal d'éléments du roman de Bernard qui se passe en effet dans la forêt, avec des traques.
Dans l'Ariège, etc.
La forêt de l'Ariège. Mmh. Et en effet, il y a quand même ce besoin qu'on a eu, nous, auteurs, de raconter peut-être un retour à la nature ou une présence de l'élément naturel très importante dans nos livres, peut-être parce qu'on était justement enfermés chez nous.
Mais la chasse avec Bernard Minier, pour faire une parenthèse, c'est vrai que c'était quasiment de l'anticipation parce que c'était une forme d'enfermement parce que le village était bloqué et peu de temps après on était confinés. C'est vrai que c'était... Moi je lui ai demandé d'ailleurs s'il était sorcier ou voyant. Donc
peut-être voyant, Bernard.
Oui.
On va surveiller son prochain.
Voilà. Oui. C'est vrai que c'est un personnage aussi tout autant attachant. Et justement, dans ces thrillers, moi, j'admire vos écritures aux uns aux autres parce que vous savez créer cet imaginaire, vous savez les angoisses, la peur, il y a aussi la joie, le rire, et tous ces personnages que vous nous apportez, moi, j'admire sincèrement tout ça. En tant que lectrice, je ne sais pas si je serais capable d'écrire de telles choses. En tout cas, je suis toujours ravie d'en discuter. Alors. Le roman aussi installe et fait la part belle aussi aux femmes. On se rappelle de l'affaire Clara Miller, bien évidemment. Je laisse le choix aux gens qui n'ont pas lu de le lire. Je rappelle d'ailleurs que l'affaire Clara Miller a obtenu de nombreux prix littéraires. Voilà. il faut le dire. Ah bah, il faut le dire. Il y a toujours la part belle aux femmes aussi, hein, des femmes fortes, qui ont des choses à dire ou à faire. Bon, voilà, c'est. Mais moi, j'ai bien aimé la façon dont vous les, comment dire, dont vous en parlez, la place que vous leur laissez. Et j'ai senti que face à un Paul Green, quand même, qui est quand même un personnage assez fort, il y a l'homme rouge, il y a toute cette situation. Ça reste néanmoins des femmes sensibles, mais très fortes.
Oui, complètement. C'est l'envie que j'avais. Je veux pas de rôle de personnage féminin faire valoir, qui soit là pour passer les plats ou devenir un enjeu dramatique pour un mâle dominant qui a besoin de remplir sa mission et la femme est emprisonnée dans une cage et doit être sauvée. Non, ça m'intéresse pas, même si bon, ça fait bien longtemps que les polars et les thrillers ne n'usent plus de ce genre de clichés. Mais en effet, j'avais surtout envie d'avoir des personnages qui ont des choses à raconter, des choses à défendre et qui sont forte en termes aussi psychologiques. Donc, en effet, en dessinant les contours de Lorraine et de Charlie, j'avais envie que, comme vous le disiez très justement, en effet, à Red 12, on est quand même dans une société très patriarcale, oui. Où l'homme, où c'est l'homme qui décide, dirons-nous, on le verra au gré du roman, je peux pas trop vous en révéler, mais en effet, on va réaliser que même Lorraine le sous-entend au travers du roman. Lorraine, qui est donc l'adjointe au shérif, hein, qui est en charge de l'enquête sur les disparus,
oui.
Mais on lui fait quand même bien comprendre à Lorraine qu'elle elle restera un peu tout le temps l'adjointe, parce que le shérif est cette figure comme ça de Jerry, qui est un peu le père de tout ce village et toute cette communauté, qui est un peu aussi le père, en tout cas, le père d'adoption, on va dire, de Lorraine.
De Lorraine,
qui l'a accompagné, qui l'a formé.
Ouais.
Elle a beaucoup d'estime pour lui, c'est peut-être aussi son meilleur ami.
Ouais.
Et en effet, il y a ce poids comme ça des hommes dans cette communauté, parce qu'il y a l'histoire qui raconte aussi que les pionniers ont dû survivre, et c'était peut-être que les femmes étaient laissées un peu en retrait par rapport à ça.
Ouais.
Mais à l'inverse, Lorraine, c'est une femme forte, puisque c'est la seule finalement qui continue à vouloir enquêter sur cette affaire des disparus, là où finalement tout le village s'est fait une raison,
ouais,
accepte de vivre avec ces disparus, ces randonneurs qui disparaissent plusieurs fois par an. Bah, en fait, Lorraine, c'est la seule qui continue à rester debout, à vouloir combattre, à vouloir comprendre, quitte à finalement sombrer dans une forme de folie et d'obsession. C'est-à-dire que tout le monde dans le village commence à lui dire « Mais Lorraine, faut que t'arrêtes, raccroche, repose-toi. »
Oui, ça sert à rien, ça sert à rien.
Sert à rien. C'est pas si important que ça. Et elle continue à travailler là-dessus. Et c'est un peu la même chose avec Charlie. Charlie, c'est une jeune adolescente de 13 ans, qui est une gamine, vous le verrez, un peu différente, à part, qui du coup dénote un petit peu dans cette petite communauté où on doit être bien dans les cases. Charlie, c'est une
chacun à sa place.
Chacun à sa place. Et Charlie, c'est une gamine qui du coup est très solitaire, et son meilleur ami, finalement, c'est la forêt. Elle passe son temps et sa vie. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est que durant le bouquin, on va croire que c'est vraiment Paul qui vient aider Charlie et qui vient la sauver. Et finalement, on va aussi rapidement découvrir que c'est peut-être l'inverse, et que c'est peut-être plus Charlie qui va aider Paul.
Moi, j'ai plutôt eu ce sentiment, elle était un peu libératrice d'un certain carcan de choses qui l'angoissaient et dans lequel il s'enfermait, en fait.
Ouais, et puis c'est ça. Puis moi, ce qui m'intéresse aussi plus largement à travers mes personnages, c'est essayer de raconter qu'on est, enfin, moi, tous mes personnages sont souvent un peu abîmés de partout, ça fuit ils ont mis des rustines et des pansements un peu partout. Ils font ce qu'ils peuvent pour tenir debout.
Ouais.
Mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de faire des personnages monolithiques. J'ai envie de faire des personnages qui doutent, qui ont peur.
Des humains.
Ouais, des humains, en fait, c'est ça. Parce que Lorraine, elle sait qu'elle est une petite adjointe, une petite fliquette, on va dire, qui se retrouve dans une histoire qui la dépasse un petit peu. Une enquête qui la dépasse un petit peu, et peut-être qu'elle va faire fausse route un moment. À l'inverse, Paul, il va se rendre compte que c'est très terrifiant ce dans quoi il a mis les pieds. Il va être terrorisé, peut-être qu'il va à un moment avoir peur.
Il se pose la question.
Il a pas envie de se lancer.
Il se pose la question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'investis? Il se pose vraiment la question.
Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon petit confort, ma petite vie?
C'est ça.
Cette gamine que je connais pas, cette fille que je connais pas.
Oui.
Charlie elle-même aussi doutera à sa manière, et c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est vraiment en fait
mais c'est surtout que l'affaire est terrifiante, parce que tous ces disparus qu'on n'a jamais revus,
ouais, c'est ça,
C'est
en
ça,
fait,
c'est
ça. Sans laisser de traces.
Et sans laisser de traces, donc c'est quand même assez terrifiant. Est-ce que j'y vais? Et Lorraine, effectivement, qui elle s'arc-boute là-dessus parce qu'elle veut y aller. Et finalement, les villageois, j'ai envie de dire, c'est marrant parce que en lisant, j'avais envie de dire les villageois en parlant de Redwood. Il y a une forme, il y a une forme de comment dirais-je, d'indifférence. Mais cette indifférence, on le disait tout à l'heure, se transforme aussi en méfiance, hein, au bout d'un
Oui,
moment, de
tout à
toute
fait.
façon. Est-ce que nous retrouverons dans votre prochain roman, mon cher Olivier Ball, ce cher Paul Green?
Ah, ça, c'est la question piège.
Je me doute que je ne suis pas la première à vous la poser. Je me
Non, et
doute.
en effet, il est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris tellement de plaisir
Ouais.
à passer un bout de temps avec Paul, son chien Flash, et puis sa vieille guimbarde, sa vieille
Ouais.
Ford Country Squire qui pétarade de partout, que je me dis que je pense qu'on va encore faire un bout de chemin ensemble. En fait, ce qui m'intéresse avec les bouquins, les romans autour de Paul Green, c'est que chaque livre est vraiment pour moi pensé de manière complètement indépendante. C'est-à-dire que vous verrez, vous pouvez lire La Forêt des Disparus sans avoir lu l'affaire Clara Miller et inversement. Pour moi, à chaque fois, on retrouve Paul, donc évidemment, il y a le background et toute l'histoire du personnage qui sera importante, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'emmener Paul dans un nouveau territoire, dans une nouvelle région, un nouvel État, et plus largement, c'est m'attaquer moi aussi à un sujet qui m'interpelle et m'intéresse. Donc en effet, dans l'affaire Clara Miller, c'était notre rapport à la célébrité.
Oui.
Dans la forêt, c'est en effet la société de la peur, comme on en parlait. Et dans le prochain, ça sera un autre sujet, une thématique forte. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que Paul est pour moi aussi comment dire, le moyen de révéler, de raconter des choses sur notre société qui
Tout à fait.
m'intéressent. Et puis, enfin, je finirai
Je vous en
là-dessus,
prie,
c'est
je vous
que
en prie.
c'est vrai que, du coup, oui, je pense que normalement, si tout se passe bien, vous retrouverez Paul l'année prochaine. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que je réalise aussi, c'est que Paul, on sait pas grand-chose
Ben
sur
non,
lui,
non, c'est vrai, moi
sur son
j'ai lu
histoire.
les deux, j'ai lu vos deux
Ouais.
livres, et c'est vrai que à chaque fois, ben, enfin, on retrouve le même personnage avec ses doutes, ses questions, mais c'est vrai qu'on sait peu de choses de lui finalement.
Voilà. Donc peut-être que un moment ou un autre, on va commencer à connaître et à comprendre un peu son histoire et pourquoi aussi
Ce serait
il
pas
est
mal,
tant
ouais, un petit
obsédé
peu, ouais.
par ce rôle de bon samaritain, d'essayer d'aider les autres envers et contre tout. Donc, on verra. Mais en tout cas, je bosse. Je bosse beaucoup. C'est un gros sujet avec beaucoup de documentation,
Ah, c'est
celui
bien.
dans lequel je me lance.
Bon,
Donc,
super.
y a beaucoup, beaucoup de boulot. Mais en tout cas, je m'épanouis et c'est très stimulant.
Mais ce qui est très intéressant aussi pour conclure dans ce livre, Les disparus de la forêt, c'est que quand vous parlez des pionniers, enfin, c'est sous-entendu par rapport à l'histoire, il y a ce côté fait historique aussi. Et moi, je trouve ça très intéressant dans un thriller, dans un polar.
Bah c'est ça, oui, tout à fait. C'est l'envie d'à la fois être dans une forme de fiction assumée avec un côté très mystérieux, un peu effrayant, inquiétant comme ça, et puis en même temps de rester accroché à la réalité, parce que moi j'ai un passé de journaliste, donc je veux que toute l'histoire soit construite tout le temps autour d'une grosse documentation, d'un gros travail en amont pour que ça soit crédible, en fait. Je veux que moi ce que j'adore, une des plus belles récompenses, c'est quand une lectrice, un lecteur vient me voir en me disant, mais alors Redwood, elle existe vraiment ce genre de choses? Pour
Ouais.
moi, c'est génial
Ben moi,
parce
je suis
que
allée
en effet,
voir,
c'est
hein.
vrai.
Je suis
Ah, bah
allée voir.
d'accord.
Je suis allée
Ouais,
voir. Ben oui, je suis
évidemment.
allée voir. Oui.
Et ça, c'est vraiment génial.
En tout cas, c'est un roman réussi, passionnant à le temps, La forêt des disparus, édition Exo avec Olivier Ball. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir, de terminer
Merci.
cette saison 2020-2021. Pour délivrez-vous et ses deux ailes, voilà, de pouvoir faire profiter aux auditrices, auditeurs de votre belle écriture et de votre allant et de votre dynamisme, Olivier
Merci
Ball.
infiniment, Claudine. J'étais ravie d'être là pour cette dernière, en tout cas.
Voilà, je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et faites
À vous
attention à vous.
également.
Merci
Et à tous
Olivier.
vos auditeurs. Merci,
Merci
au revoir.
beaucoup, merci, au revoir. Eh bien voilà, je vais donc laisser un petit peu le casque, le micro se reposer, prendre aussi des vacances. Je vous souhaite donc un bel été. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures littéraires, sans doute passionnantes. J'ai déjà plein de choses, voilà, dans les tiroirs, à vous concocter, à vous préparer, tout au long de cet été. On se retrouvera, ça doit être en septembre, aux alentours de 16, 17, 18 septembre. Bref, vous aurez la date exacte, d'ici là. En tout cas, passez un bel été, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le virus continue de circuler et donc il ne faut pas gâcher les efforts que nous avons faits. Mais amusez-vous, à bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir.